Il est 12h30 sur France Culture. Et à 12h30 sur France Culture, c'est l'heure des informations par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. François Rebsamen veut renforcer le contrôle des chômeurs. Le ministre du Travail demande à Pôle emploi de renforcer les contrôles pour vérifier qu'ils cherchent bien un emploi. Et il affirme qu'une sanction est nécessaire dans le cas contraire. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, se dit ce matin atterré par ses propos. Commentaire dans un instant de Jean-Marc Chardon. Dans une interview à Ouest France, le nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron, réaffirme que l'entreprise est le cœur de l'économie. C'est elle qui emploie, exporte et innove, affirme-t-il. Contre de Frédéric Saïs. À l'occasion de la rentrée scolaire ce matin, le chef de l'État en déplacement en Seine-Saint-Denis annonce un grand plan pour le numérique pour l'école. On l'entendra ainsi que l'analyse d'Hakim Kasmi. Les combats en Ukraine. Kiev qui accuse ce matin la Russie de lancer une grande guerre qui fera des dizaines de milliers de morts. Et Moscou qui prévient que la Russie va réagir à la menace que constitue, je cite, le renforcement annoncé de la présence de l'OTAN près de ses frontières. Correspondance de Marc Crépin à Moscou. Pendant ce temps, à Bruxelles, la future ministre de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, affirme que les pays européens frontaliers de la Russie doivent être assurés que l'engagement de l'OTAN à les protéger n'est pas juste un bout de papier, compte rendu de ses premières déclarations avec Pierre Benazé. L'invité du journal, Bernadette Groison, qui est secrétaire générale de la Fédération de l'éducation FSU, et dans la dernière partie de la grande table, Caroline, nous restons dans le sujet rentrée scolaire.
On se demandera si la rentrée scolaire, comme le titre, la tribune de Libération parue aujourd'hui, est signée par notre invité, si la rentrée scolaire est un rituel dépassé. Notre invitée, ça sera Béatrice Mabilon-Bonfils, qui coécrit avec François Durper un essai qui prolonge cette tribune. La fin de l'école, l'ère du savoir-relation. C'est au PUF.
Après l'annonce d'une nouvelle hausse du chômage au mois de juillet, le ministre du Travail, François Rebsamen, avait reconnu, il y a quelques jours, donc un échec en matière d'emploi depuis le début du quinquennat de François Hollande. Ce matin, il affirme maintenant vouloir agir sur les chiffres du chômage et il demande à Pôle emploi de renforcer les contrôles pour vérifier que les chômeurs déclarés cherchent bien un emploi. Il estime qu'une sanction est nécessaire dans le cas contraire. On l'écoute.
Aujourd'hui, si on écoute bien ce qui se dit, tout est tabou. Mais moi, je vais vous dire, je pense qu'il faut renforcer les contrôles. Quand on est chômeur, au sens du Bureau international du travail, on recherche un emploi. Et donc, c'est négatif pour ceux qui recherchent des emplois d'être à côté de personnes qui ne cherchent pas d'emploi. Donc, je demande à Pôle emploi de renforcer les contrôles pour vérifier que les gens cherchent bien un emploi.
Voilà, François Rebsamen, c'est clair, c'était sur ITélé ce matin. Jean-Marc Chardon, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, Monsieur Rebsamen rappelle que selon le BIT, être chômeur, ce n'est pas ne pas avoir d'emploi, mais c'est ne pas en chercher. Alors, combien y aurait-il de chômeurs en moins avec cette définition ?
Bah, écoutez, pour vous décevoir, on ne peut avancer de chiffres précis. On l'est à plusieurs dizaines de milliers peut-être, peut-être davantage, mais sachant qu'un certain nombre de demandeurs de toute façon sont dispensés de recherche, un chiffrage actuellement est encore aléatoire. C'est que notamment dans les populations âgées, des salariés peuvent ne plus avoir à faire de recherche active. On se trouve finalement en face d'un système compliqué d'indemnisation qui cumule des catégories de demandeurs fort différentes entre celles qui sont sans aucune activité aucune et puis celles qui ont une activité plus ou moins réduite. Ce qui constitue ce qu'on appelle le halo autour du chômage. Et ce halo, il est très vaste. A priori, si l'on s'en tient à la définition du BIT, le nombre de chômeurs est stable depuis un an, alors qu'il progresse dans les statistiques de Pôle emploi. Au-delà des écarts statistiques, eh bien, la question de fond, elle reste celle de la capacité des contrôleurs à suivre les chômeurs et surtout à engager des sanctions, quelques centaines par mois, dont beaucoup d'ailleurs ne sont pas suivies d'effet. Des réformes ont été tentées sous le gouvernement précédent, sans résultat tangible actuellement. Pôle emploi a bien renforcé son système de contrôle depuis de l'année, mais il est encore trop tôt pour en faire un bilan en cours de route.
Merci beaucoup Jean-Marc Chardon. Et parmi les réactions syndicales ce matin, celle de la CGT, Éric Cobin, secrétaire confédéral.
Je crois que c'est un constat d'abord d'échec de la politique menée par le gouvernement. Vouloir contrôler plus les demandeurs d'emploi alors qu'on a un pôle emploi qui est très en difficulté dans la période où l'on sait que les agents ont pratiquement dans leur portefeuille près de 300 demandeurs d'emploi pour certains d'entre eux. Pôle emploi d'abord ne serait pas en capacité d'établir ces contrôles. Deuxièmement, la recherche active est déjà prévue. Et d'ailleurs, est obligatoire pour être indemnisé aujourd'hui. Le demandeur d'emploi doit montrer qu'il a effectivement effectué des recherches actives d'emploi. Donc, il n'y a aucune raison pour que le ministre du Travail revienne sur cette question. Et elle s'applique d'ores et déjà.
Quant à Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, il se dit atterré par les propos de M. Rebsamen sur les chômeurs qu'il qualifie donc de scandaleux. Ses propos, il parle de stigmatisation des chômeurs.
Le nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron, effectue ce matin son premier déplacement hors de son ministère. Il visite en ce moment, dans la Manche, l'une des plus importantes SCOP de France.
Et ce matin, dans une interview à Ouest France, eh bien, il a précisé, M. Macron, la manière dont il se considérait de gauche. Il a tenté en fait de redresser l'image laissée par sa dernière interview au point, Frédéric Saïs.
Oui, c'est un virage à 180 degrés par rapport à la première image qu'Emmanuel Macron avait donnée au grand public, cette interview dans Le Point où il préconisait de déverrouiller les 35 heures. Alors après ce faux pas dans la presse parisienne, pas spécialement classée à gauche, Emmanuel Macron a choisi la presse régionale, Ouest-France. Plus question ici de l'énarque omniscient qui a séné ses convictions. Posture modeste, je viens rencontrer des salariés et apprendre d'eux, explique-t-il d'entrée. L'ancien banquier a donc choisi de visiter une société coopérative. Cela illustre très bien l'idée que je me fais de l'entreprise, dit-il, une collectivité humaine qui est aussi la propriété de ceux qui la font. Est-il social-libéral, comme on l'a dit au moment de sa nomination ? Il ne réfute pas le terme, mais ne veut pas se faire enfermer dans un qualificatif. Je souhaite qu'on regarde ce que je ferai comme ministre. Alors, quelles actions, justement ? Emmanuel Macron en cite une, la clarification de l'usage qui est fait du crédit impôt compétitivité emploi. Le CICE, c'est une des demandes des frondeurs, hein, après qu'on a appris que les dividendes en France sont fortement augmentés. Je m'expliquerai personnellement pour cette clarification, explique-t-il. On est loin du déverrouillage des 35 heures. Être de gauche, conclut-il en anaphore dans cette interview, s'éveiller à ce que les efforts comme les gains soient équitablement répartis. Être de gauche, c'est être davantage du côté du style que de la rente. Il rappelle également, pour finir, son âge, 36 ans. Je ne me vois pas comme un homme politique en devenir, à manière de dire qu'il garde tout de même en réserve quelques idées bien personnelles, quitte à bousculer un peu.
Frédéric Saïs, merci beaucoup. Et parmi les déclarations politiques, encore ce matin, celle de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, selon qui François Hollande a maintenant épuisé toutes les solutions, n'aura d'autre choix que de dissoudre si ce gouvernement échoue. Mais pour l'instant, il le soutient plutôt.
Cette conversion des socialistes à l'entreprise est la bienvenue. Et nous nous réjouissons de ce discours nouveau. Mais nous attendons des actes. On nous lance une nouvelle orientation dite sociale-libérale. Mais il la lance dans le pire des circonstances. Et on voit bien que le gouvernement a assez peu de chances de réussir, compte tenu des décisions. Si vous prenez la loi Allure sur le logement, si vous prenez tout ce qui a été pris aujourd'hui vis-à-vis des collectivités locales, qui sont le moteur de l'investissement public. Eh bien, quand on regarde tout ça, on se dit qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Et puis maintenant, on voit bien que ce nouveau gouvernement, c'est la dernière étape avant le chaos, avant une dissolution. Mais ce n'est pas l'intérêt de la France que le gouvernement échoue. Personne n'a intérêt à ce que Valls échoue dans le pays. C'est mon sentiment.
Jean-Pierre Raffarin sur RTL avec Jean-Michel Apathy, Bernadette Groison, bonjour.
Bonjour.
Secrétaire général de la Fédération FSU, on va parler évidemment de la rentrée scolaire puisque vous êtes là pour ça dans un petit instant. Un mot quand même peut-être de tout ce qu'on vient d'entendre sur cette nouvelle orientation du gouvernement Valls 2, son orientation générale, et cette question du contrôle des chômeurs par exemple.
Oui, la déclaration de François Rebsamen est pour le moins malvenue et désolante effectivement parce qu'elle laisse à penser une nouvelle fois que finalement les chômeurs seraient responsables de leur situation et que finalement s'ils ne trouvent pas d'emploi, c'est bien de leur faute et qu'en plus, donc, ils coûtent très cher, donc il faut les sanctionner. Je crois que c'est déplacé et je crois que le gouvernement devrait mettre toute son énergie plutôt à créer des emplois, à voir aussi comment s'applique la loi formation professionnelle, c'est-à-dire comment on réoriente des chômeurs qui ont besoin de formation professionnelle pour trouver des emplois dans un secteur qui n'était pas leur à l'origine. Bref, il y a un certain nombre de dispositions sur lesquelles on attend plutôt le gouvernement que sur ce type de déclaration, bien évidemment. Alors, sur le gouvernement Valls 2, il confirme l'orientation qu'a pris François Hollande avec le pacte de responsabilité. En gros, hein, quand au mois de janvier, il a annoncé le pacte de responsabilité, il avait assumé une orientation économique libérale. Je crois qu'on a la confirmation avec ce gouvernement de cette orientation. C'est un désaccord pour nous, cette politique économique, hein, bien sûr, avec la baisse des dépenses publiques et toutes les conséquences, notamment sur les services publics, fonction publique, protection sociale.
Avec l'éducation
sociale,
quand même un petit peu préservée.
Et avec, bien sûr, l'éducation qui est préservée, qui est l'îlot préservé. Donc là, bien sûr que nous sommes, je dirais, capables d'avoir ce discours nuancé pour dire que oui, il y a des avancées dans l'éducation nationale. Enfin, sur le reste, bien évidemment que nous restons très critiques sur les conséquences de ce choix économique qui est fait par ce gouvernement.
Bernadette Groison, on parle maintenant de la rentrée scolaire.
Oui, puisque plus de 12 millions d'élèves quand même sont retournés en classe ce matin.
Rentrée aussi pour la première nouvelle, la première rentrée scolaire donc pour la ministre Najat Vallaud-Belkacem qui a une nouvelle fois affiché sa fermeté face aux maires qui menace. menace de boycotter la réforme des rythmes scolaires. On a beaucoup parlé de cette réforme des rythmes, mais elle ne doit pas cacher, Hakim Kasmi, un malaise qui persiste dans le monde enseignant.
Un malaise qui se traduit déjà au niveau du recrutement. Preuve que le métier d'enseignant fait de moins en moins rêver, selon le SNES, rien que dans le secondaire, 7000 postes resteront non pourvus faute de candidats, notamment en lettres et en mathématiques. Un chiffre qui pourrait même passer à 10 000 d'ici un an. Pour les syndicats, tout comme pour la nouvelle ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, ce phénomène s'explique aussi par la politique menée par l'ancienne majorité sous Nicolas Sarkozy. On se souvient que 80 000 postes avaient été supprimés, tout comme la formation des enseignants. Pour autant, même si 60 000 postes seront bien créés pendant le quinquennat de François Hollande, ils ne suffiront pas à tout régler, vu qu'une bonne partie d'entre eux seront en fait absorbés par la hausse démographique, plus 70 000 élèves dans le secondaire et le primaire cette année. Autre problème, celui de la précarité. Pour faire face au manque d'effectifs, le ministère a de plus en plus recours aux contractuels. Pas toujours formés, ce sont souvent des étudiants en licence ou en master. Ils représentent aujourd'hui 20% des effectifs et on les retrouve surtout dans les académies de Créteil et de Versailles où les besoins sont très importants. Enfin, le malaise s'explique aussi par un manque de reconnaissance de la profession, mais aussi par une mauvaise gestion des ressources humaines, puisque selon l'UNSA, 25% des professeurs souhaiteraient même changer de métier et quitter l'enseignement. Des enseignants qui demandent aujourd'hui une meilleure revalorisation salariale, puisque selon les CDE, ils feraient partie des professeurs les moins bien payés d'Europe.
Bernadette Croizon, comment s'est passée ce matin cette rentrée, selon vous ?
Mais écoutez, vous venez de faire le constat à peu près de tous les sujets sur la rentrée. Donc la rentrée, elle se passe toujours à peu près techniquement, selon la formule habituelle, bien, plus ou moins selon les secteurs. Mais je dirais que ce qui compte maintenant, c'est l'année qui est devant nous. Il y a des sujets très identifiés, les rythmes scolaires, la formation, le recrutement que vous avez évoqué. Je crois que ce qui est attendu, effectivement, par la nouvelle ministre, c'est un discours fort sur l'éducation, sur le rôle de l'école aujourd'hui et ce que l'on attend de l'éducation. Je lis beaucoup de choses ces derniers jours sur le constat des inégalités à l'école. Oui, notre système éducatif reste inégalitaire, avec une corrélation, on le sait, très forte entre inégalité sociale et inégalité scolaire. Oui, les 15% en difficulté au collège que le second degré n'arrive pas suffisamment à redresser, etc. Les sorties sans qualification. Mais je crois que maintenant, il ne faut pas que ce constat arrive à faire le procès de l'école, voir le procès des enseignants. Et il faut surtout qu'à partir de maintenant, on se mette au travail sur les mesures qui vraiment vont permettre de lutter contre ces inégalités. Il y a des chantiers qui sont ouverts, la formation initiale, il faut aussi penser à la formation continue, les contenus à enseigner avec une consultation aux enseignants dès cet automne, la réforme du collège, du lycée, la question de l'enseignement professionnel par exemple, avec des débats qui s'ouvrent aujourd'hui par Matignon, enfin pas aujourd'hui mais très prochainement sur cette question de l'apprentissage. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, à cette rentrée, il ne faut pas, on parle beaucoup bien sûr des élèves, des parents, et c'est normal puisque c'est eux qui sont le cœur de notre métier et source de nos préoccupations et nos exigences. Il ne faut pas oublier les enseignants et les personnels, parce que dans tout ce que j'entends, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un engagement professionnel profond des enseignants, qu'ils ont aussi beaucoup certainement d'inquiétudes, de doutes, mais ils ont aussi besoin de confiance, de reconnaissance, parce que je crois que vraiment ce qui est le moteur pour tous ces personnels, et particulièrement pour les enseignants, c'est se dire « j'ai un an pour être utile, les faire réussir et franchement, je crois qu'on peut compter sur eux ». Les réformes ne seront pas sans eux.
Oui, voilà. Mais Bernadette Croizon, bonjour. Bonjour. On l'a entendu tout à l'heure dans le papier d'Hakim Kasmi. Deux ans après l'arrivée de François Hollande au pouvoir, il y a une véritable déception du monde enseignant, voire un désenchantement. Vous parliez tout à l'heure pourtant d'îlots préservés. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ils ne sont jamais contents, les professeurs ?
Non, vous savez, il y a deux grandes raisons à ce mécontentement. Et évidemment, vous avez raison. D'ailleurs, toutes les enquêtes, y compris celle faite par les syndicats, je pense à l'enquête du SUMP, dans le premier degré, montre ce mécontentement, cette déception. Il y a tout d'abord que les moyens qui ont été mis et qui sont réels, sur notamment les créations de postes, n'ont pas d'effet immédiat sur le terrain, puisque la moitié, plus de la moitié quasiment de ces postes sont dévoués à la formation initiale, ce qui est totalement nécessaire, et les enseignants le savent. Mais n'empêche que sur le terrain, on ne les retrouve pas. Donc ça ne crée pas les postes nécessaires pour diminuer les effectifs, donc ça n'empêche pas le manque de remplaçants, donc ça ne permet pas de transformer tout de suite maintenant nos pratiques professionnelles, le travail en équipe, le décloisonnement, moment, quelques respirations pédagogiques. Tout ça n'est pas possible dans l'immédiat. Donc il y a un décalage entre ces postes, ces moyens dont on parle beaucoup et sur le terrain, pas grand-chose qui change. Et puis, il y a d'autre part une souffrance quelque part du manque, je disais, de reconnaissance. Mmh. Bon, il y a la question des salaires, bien évidemment. Il y a les conditions de travail. Mais il y a peut-être aussi un manque de confiance dans les enseignants. Ils ont besoin qu'on arrête de leur dire que quand même, s'il y a de l'échec, des inégalités, s'ils ne font pas bien leur travail, que quand même, ce système ne fonctionne pas bien. Bon, on a besoin de l'éducation pour les jeunes, qui se construisent leur avenir personnel, pour leur émancipation, pour l'avenir de la société. On a besoin de l'éducation dans un pays en crise économique, industrielle, culturelle.
En même temps, on a l'impression qu'ils ne sont jamais contents toutes les rentrées.
Et donc, on a besoin de le dire aux enseignants. Et vous savez, enseigner, c'est inventer l'avenir chaque jour, c'est improviser le monde. Et donc, c'est aussi, je crois, que cette complexité que les enseignants renvoient, et qu'ils ne soient pas contents, je pense que c'est source d'espoir, parce que ça veut dire qu'ils veulent le meilleur, qu'ils veulent le mieux pour leurs élèves. Et quand on est enseignant, mais je crois que c'est important de ne pas satisfaire forcément de la situation si on veut vraiment la réussite et le mieux pour nos élèves.
Pour l'occasion, le chef de l'État s'est rendu tout à l'heure dans un collège de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. C'est un établissement flambant neuf, équipé d'une piscine, nous dit-on, entièrement reconstruit pour un coût d'une quarantaine de millions d'euros sur un terrain voisin de l'ancien collège Louise Michel. François Hollande donc a annoncé ce matin un grand plan pour le numérique pour l'école. On écoute sa déclaration.
Je l'annonce ici, il va y avoir un grand plan numérique pour l'école dans la République. Bien sûr que nous aurons besoin des collectivités locales pour accompagner ce processus. C'est déjà fait. Mais l'État y mettra aussi tous ses moyens pour former les enseignants, pour assurer partout l'arrivée du très haut débit et pour aussi que les éditeurs puissent, les éditeurs de livres, mettre les contenus sous forme numérique, de manière à ce que chacun puisse y accéder.
Voilà donc François Hollande ce matin. C'est un sujet qui est l'occasion de saluer notre invité, l'invité de la dernière partie de la grande table, la sociologue Béatrice Mabilon-Bonfils, auteur d'un essai, donc comme le disait Caroline tout à l'heure, intitulé « La fin de l'école », sous-titré « L'ère du savoir, relation ». Il y a dans votre livre donc une large part qui est précisément consacrée à ces questions de la transmission. Et pour vous, la transmission des connaissances peut être prise en charge par la technologie. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière et évidemment répondre à la question qui vient tout de suite à l'esprit, comment se passer des professeurs?
D'accord. L'ouvrage La fin de l'école ne propose pas qu'on se passe des professeurs. On a besoin du lieu scolaire, on a besoin des enseignants. Concernant l'annonce de François Hollande, moi je dirais oui au plan numérique, oui à la formation au numérique, mais à deux conditions importantes. L'une, c'est qu'il faut intégrer une autre manière de penser l'école, notamment former les enseignants à la pédagogie. La pédagogie, c'est le parent pauvre aujourd'hui de l'éducation nationale, parce que c'est le parent pauvre de la formation, parce que c'est le parent pauvre du recrutement des enseignants. Et deuxième condition, penser autrement la citoyenneté numérique. Donc c'est redonner, pour répondre à votre seconde question, c'est donc redonner à l'enseignant une place, mais une place différente, où il ne sera plus dans une stratégie d'imposition verticale des connaissances, mais dans une autre manière de partager le savoir, sur laquelle on reviendra peut-être.
Ah oui, bien sûr, tout à l'heure dans la dernière partie. Bernadette Croison, ça vous convient cette définition de l'enseignant non surplombant?
Bah, écoutez, oui, après, je crois qu'on pourrait avoir des discussions assez longues. Je crois qu'on a besoin que l'enseignant reste un passeur, un médiateur. Et donc, je crois que dans ce plan numérique qui est annoncé, au-delà des questions de financement et de mise en œuvre, la question de la formation des enseignants et de la manière dont on compte enseigner avec le numérique, elle est cruciale. Et c'est ça qu'il faut interroger avec ce plan numérique, bien évidemment.
Une toute dernière question, Annabelle Grenier.
Bernadette Croison, certains maires menacent de ne pas ouvrir leur école demain matin, mercredi, car ils estiment ne pas avoir les moyens de mettre en place les activités périscolaires, et cela malgré une aide financière de l'État. Avez-vous l'impression que ces maires font quoi? De la politique, prennent en otage les parents, ou on s'intéresse à l'intérêt des enfants? On en est où?
Bon, écoutez, je crois que oui, ces maires font très certainement de la politique. Après, il est légitime dans ce pays de faire de la politique, mais évidemment que la réponse de la ministre ne peut pas être autrement qu'il faut appliquer la loi. Moi, ce que je redoute avec cet épisode, c'est qu'en gros, on ne parle pas tellement vraiment du sujet réel des rythmes scolaires, qui est comment une réforme qui veut aménager les temps scolaires permet de faire mieux réussir les élèves et leur donne de meilleures conditions de scolarisation. Donc comment on interroge ce qui se passe sur le temps scolaire et sur le temps éducatif et comment on fait mieux encore ce temps scolaire et ce temps périéducatif. Et donc à travers ce qui est en train de se passer, on parle politique, on parle fonctionnement, on parle un petit peu financement, mais on ne parle pas en quoi la réforme des rythmes scolaires contribue à la réussite des élèves et comment améliorer qualitativement tous ces temps éducatifs.
Merci beaucoup Bernadette Groison d'avoir accepté notre invitation.
12h49, l'actualité à l'étranger. Elle est toujours dominée par la guerre dans l'est de l'Ukraine.
Oui, Kiev a dû abandonner, on le sait, aux séparatistes hier, un aéroport stratégique à Lugansk. Et Kiev accuse ce matin Moscou de lancer une grande guerre qui fera des dizaines de milliers de morts. C'est le ministre de la Défense qui s'exprime ainsi. Une grande guerre est arrivée dans notre maison, dit-il, une guerre comme l'Europe n'en avait plus connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Selon le HCR, ce matin, ce sont plus de 260 000 personnes qui ont été déplacées en raison de ce conflit. Alors de son côté, Moscou accuse les Occidentaux de jouer l'escalade et prévient que la Russie va réagir à la menace que constitue le renforcement annoncé de la présence de l'OTAN près de ses frontières. Le secrétaire général adjoint du Conseil de sécurité russe annonce donc un ajustement d'ici la fin de l'année de la doctrine militaire russe pour précisément prendre en compte l'apparition de cette nouvelle menace. Comment faut-il interpréter ces propos, Marc Crépin ?
L'effet recherché pour le moment est un effet d'annonce. Venant du secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe, Mikhail Popov, cela n'est pas encore une menace, c'est plutôt une réponse à la menace que constitue la présence de l'OTAN aux portes de la Russie. À deux jours du sommet de l'OTAN au Pays de Galles, Moscou entend donc rappeler que son armée reste vigilante. Vladimir Poutine, qui s'est lancé dans une grande opération de modernisation des forces armées depuis un an, juge qu'il faut s'adapter à l'environnement international qui évolue sans cesse. D'une part, l'avancée du camp américain en Europe de l'Est et d'autre part, l'islam extrémiste et conquérant depuis l'émergence des printemps arabes. Mais surtout, la crise ukrainienne a entraîné une dégradation des relations entre l'OTAN et la Russie, comme on ne l'avait pas vu depuis la chute de l'Union soviétique. La dernière fois que la Russie avait mis à jour les grands principes d'intervention de son armée, il y a 4 ans, cela n'avait soulevé aucune émotion. Aujourd'hui, la présence de troupes russes en Ukraine aux côtés des séparatistes instrumentalisés et les propos guerriers de Vladimir Poutine donnent à cette déclaration une dimension beaucoup plus inquiétante.
Et au lendemain de ces déclarations de Vladimir Poutine sur cette structure étatique dans le sud-est de l'Ukraine, les Européens expriment une nouvelle fois leur mécontentement, considèrent que le chef désigné de l'Union européenne, pardon, de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, estime que le président russe n'est pas un partenaire diplomatique fiable. Et Madame Mogherini vient de s'exprimer d'ailleurs devant la Commission des affaires étrangères du Parlement européen, où on retrouve Pierre Benazet. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Et elle est revenue sur cette situation en Ukraine, évidemment.
Oui, effectivement, Federica Mogherini s'est en particulier attardée sur la question des nouvelles sanctions européennes à l'encontre de la Russie, en confirmant que leur champ d'action porterait sur l'énergie, l'armement ou encore les marchés financiers, et que ces sanctions devaient être finalisées avant le sommet de l'OTAN pour une décision d'ici la fin de la semaine. On l'avait entendu ces derniers mois émettre des doutes quant à l'impact des sanctions, mais son ton d'aujourd'hui montre qu'elle ne doute plus de leur nécessité face à la Russie, qui n'est plus, a-t-elle répété, un partenaire stratégique pour l'Union européenne. Elle a tenu aussi à écarter les critiques venues d'Europe orientale avant sa nomination, qui l'accusait d'être trop conciliante avec le Kremlin, rappelant que son premier déplacement avait été à Kiev au début de la présidence tournante de l'UE, assurée par l'Italie depuis juillet. Federica Mogherini a vivement critiqué Vladimir Poutine. Elle emploie un discours de fermeté, ce en quoi elle se rapproche du Premier ministre polonais Donald Tusk, appelé à prendre à ses côtés la présidence du Conseil européen. Elle a toutefois renouvelé ses déclarations sur le fait qu'une option militaire était impossible, mais elle a tenu à réaffirmer que la défense collective de l'OTAN garantirait la sécurité des pays d'Europe orientale, un message destiné à les rassurer, ces pays, mais aussi à répondre aux déclarations de Vladimir Poutine ce matin.
Quelle impression vous a faite donc cette nouvelle porte-parole de la diplomatie européenne? Est-ce qu'elle apporte un ton différent ou des orientations nouvelles par rapport à Catherine Ashton qu'elle va donc remplacer?
Il y a d'abord une grande différence de personnalité, dirons-nous. Catherine Ashton a quelquefois des dehors peu engageants. Elle ne recule pas devant l'utilisation de la langue de bois, alors que Federica Mogherini, ne recule pas devant les questions elle-même, même quand elle veut y répondre avec fermeté. Elle donne nettement l'impression d'être plus à l'aise, et peut-être aussi est-ce dû au fait qu'elle est ministre des Affaires étrangères depuis 6 mois. Et puis Catherine Ashton, par exemple, ne s'intéressait pas du tout aux questions de défense. Or, Federica Mogherini on a parlé dès ce matin, donc on peut effectivement dire qu'il y a un ton nouveau et peut-être aussi des orientations nouvelles.
Pierre Benazé en direct de Bruxelles. Des frappes américaines cette nuit en Somalie qui visaient une réunion des principaux chefs des islamistes Chebab. Ils étaient réunis pour discuter de l'offensive lancée aux premières heures de la matinée. C'était samedi dernier par les forces gouvernementales somaliennes qui sont appuyées par la force de l'Union africaine en Somalie. En Irak, l'armée, les combattants kurdes et les miliciens chiites auraient obtenu donc de premiers succès avec le soutien aérien américain. Elle gagnerait donc ses forces du terrain face à l'État islamique et aurait pris le contrôle partiel d'une autoroute stratégique qui relie Bagdad au nord du pays. La météo avec le maintien d'un temps ensoleillé, en tout cas sur la moitié sud, une large moitié sud du pays, un temps plus variable au nord, des températures de 20 à 32 degrés cet après-midi. Fin de cette édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Tara Schlegel.